Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, à deux doigts de la catastrophe, les premiers détails du futur rapport du GIEC sur le climat sont publiés. L'alarme est encore plus hurlante que les fois précédentes. Les champions du monde face aux champions d'Europe, France-Portugal ce soir dans l'Euro de football. L'attaque française va-t-elle enfin être à la hauteur des attentes? La femme qui valait 40 milliards, la présidente de la Commission européenne en promo à Paris aujourd'hui. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Ursula von der Leyen vient rappeler que le plan de relance en France dépend beaucoup et concrètement de l'Europe.
Oui, c'est l'Europe qui va financer la rénovation thermique de près de 700 établissements scolaires d'ici 2023 ou encore la numérisation de nos cartes d'identité.
Vous nous donnerez les détails. Quand l'extrême droite parle à l'extrême droite, l'appel de Marine Le Pen à Éric Zemmour ce matin sur France Inter.
Et si Éric Zemmour veut être candidat, qu'il le soit, mais que les choses soient loyalement dites. Être éditorialiste et se comporter comme un candidat à la présidentielle, ça n'est pas extrêmement loyal.
Nous verrons aussi que les dates de la prochaine présidentielle font débat. Dans l'actualité encore, l'Américain Chris Ware, Grand Prix d'Angoulême de la bande dessinée. Le succès de la campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne. Beaucoup de monde, les Français en première ligne et plus de femmes. Et puis les choix de films de Corinne Pellissier cette semaine. Cruella, Ibrahim et Tokyo Shaking. Pour notre invité de 13h30, appelez-nous dès maintenant, agriculteurs ou consommateurs, vos questions et témoignages sur le prix des fruits en ce début d'été. Les abricots jusqu'à 5 euros le kilo, les fraises ou cerises à plus de 10. Pourquoi si cher? 01 45 24 7000 ou l'appli France Inter rubrique Réagir. Nous serons avec la présidente de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits. Le vif de l'histoire, Jean Lebrun, l'abstention massive, l'épreuve finale du bac réduite à peu de choses. Et si nos grands rites républicains étaient en train de disparaître? Et puis c'est le comédien Charles Berling qui est avec Frédéric Pommier, le temps d'une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Il y avait 15 millions de téléspectateurs devant France-Allemagne, 12 millions devant France-Hongrie. Combien ce soir pour la revanche de la finale 2016 France-Portugal, dernier match de poule de l'Euro. Une belle soirée de foot se présente. Les Portugais auront un peu plus de poids sur les épaules au coup d'envoi. En cas de défaite, ils pourraient être éliminés. Côté bleu, déjà qualifié pour les huitièmes, le grand atout en principe, c'est l'attaque. Mbappé, Griezmann, Benzema. Mais elle ne tient pas ses promesses depuis le début du tournoi. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Bruno.
En direct de Budapest, où se tiendra le match dans un stade plein. Pour que l'équipe marque vraiment, l'entraîneur Didier Deschamps pourrait modifier sa tactique ce soir.
Ah oui, c'est sûr. Alors, sans trop rentrer dans des explications technico-tactiques, Bruno, notons juste que le sélectionneur va revenir à finalement au système de jeu qui avait permis aux Français d'être champion du monde en Russie en 2018 et qui avait permis également aux Français de battre le Portugal lors d'un match de Ligue des Nations. C'était le 14 novembre 2020. C'était à Lisbonne et c'est, je pense, le match référence des Bleus depuis leur titre de champion du monde en Russie avec des lignes très resserrées pour laisser peu d'espace aux Portugais. Rabiot, à l'époque, avait été utilisé sur un côté, un petit peu comme Blaise Matuidi, vous en souvenez, avait été utilisé lors de la Coupe du Monde en Russie, et dans un rôle de, je dirais, de colmateur d'espace, entre guillemets, eh bien c'est un rôle qui devrait revenir ce soir à Corentin Tolisso et permettre à Antoine Griezmann d'être en soutien de Karim Benzema. On sait que c'est la position préférentielle de Griezmann, Mbappé sur le côté gauche et donc Tolisso sur le côté droit. Ça devrait permettre, on l'espère en tout cas, aux Français de marquer des buts.
Et puis à l'arrière, on va découvrir à droite le jeune Jules Koundé ce soir, Cédric.
Exactement, il devrait connaître sa première titularisation sous le maillot de l'équipe de France sur le côté droit, alors que c'est plutôt un défenseur axial, malgré sa petite taille. Il mesure 1m78, mais lors de l'annonce de la liste des joueurs retenus sur 7 euros, Deschamps avait mis l'accent sur la polyvalence de Jules Koundé, un joueur de 22 ans, né à Paris avec un papa d'origine béninoise, qui vit d'ailleurs toujours au Bénin. Et Jules Koundé qui a été élevé par sa maman, qui a déménagé en Gironde lorsqu'il avait seulement 2 ans. Il a pris sa première licence dans la petite commune de Landiras avant d'être formé aux Girondins de Bordeaux, d'être reconnu et d'être bon tout de suite finalement lorsqu'il a été lancé. Il est parti en 2019 en Espagne au FC Séville, un transfert estimé à 25 millions d'euros pour un joueur qui avait 20 ans à l'époque, qui plus est un défenseur. Ça prouve quand même la valeur de ce joueur. Il a signé là-bas pour 5 ans. Il se dit aujourd'hui qu'il y a de très grands clubs qui sont intéressés par Jules Koundé comme Manchester City, le Real Madrid et même le Paris Saint-Germain. Saint-Germain. Et si en plus Bruno, il se met à jouer avec l'équipe de France lors de cet Euro, ce qui devrait être le cas ce soir, eh bien, on n'a pas fini d'entendre parler de lui.
De Landiras à l'équipe de France, l'histoire de Jules Koundé racontée par Cédric Guillou en direct de Budapest avec les moyens techniques de Frédéric Kérou. Le match de ce soir, c'est donc la revanche de la finale de l'Euro 2016 que le Portugal avait gagné 1-0 dans les prolongations. Et l'entraîneur portugais Fernando Santos était déjà sur le banc. Il se souvient de l'attitude de l'équipe de France à l'époque.
En 2016, à mon avis, l'équipe de France avait fait preuve, surtout lors du match contre le Portugal, d'un petit peu d'excès de confiance et de moins de respect envers notre équipe. Ça a dû servir de leçon à la France. Parce que pour le reste, l'équipe a très peu changé depuis 2016. Mbappé était déjà là. Mais cette équipe a compris en quoi consistait le football. Le football consiste à marquer des buts, pas à souffrir. Et de ce point de vue, la France est devenue très pragmatique.
Portugal-France, coup d'envoi à 21h. L'arbitre sera espagnol Mateu Laos. Si les Bleus terminent premier de leur groupe, ils joueront contre l'Ukraine ou la Suisse en huitième de finale. Deuxième, ils affronteraient l'Angleterre. S'ils terminent troisième, ce sera la Belgique ou les Pays-Bas. Dans le même groupe, toujours à 21h, Allemagne-Hongrie, dans un stade de Munich qui ne sera pas pavoisé aux couleurs LGBT, en défi au régime hongrois. L'UEFA a refusé. Ce que déplorent l'Allemagne et la France, l'Elysée, communiqué il y a quelques minutes, regrette profondément ce choix de l'UEFA. Deux autres matchs aujourd'hui à 18h, Suède-Pologne et Slovaquie-Espagne. Attention, l'Espagne pourrait être éliminée en cas de défaite, voire de match nul.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Et nous avons commencé ce journal avec le football. Pour un peu de légèreté, l'autre actualité du jour et des décennies à venir est très lourde. L'agence France-Presse donne aujourd'hui beaucoup de détails sur le projet de rapport des experts du GIEC sur le changement climatique. Le rapport officiel n'est attendu qu'en février prochain. Et dans le compte-rendu de l'agence France-Presse, on lit cette phrase glaçante à propos du changement climatique. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur. L'humanité ne le peut pas. Bonjour Célia Quiret.
Bonjour Bruno.
Spécialiste des questions d'environnement à France Inter, le ton, si l'on en croit l'AFP, est nettement plus alarmiste que celui des précédents rapports.
Oui, ce rapport parle des enfants nés en ce moment. En 2021, quand ils auront 30 ans, la vie sur Terre, telle que nous la connaissons, sera transformée par le dérèglement climatique. Les scientifiques avaient déjà alerté sur ces changements, mais ils s'accélèrent et les impacts sont dévastateurs. Pénurie d'eau, exode, malnutrition, extinction d'espèces. Or, le climat a déjà changé et les effets sont visibles. Il y a déjà des pertes dans l'agriculture à cause des aléas climatiques. La pêche diminue, notamment en Afrique. Autre exemple, les coraux. La moitié ont disparu alors que 500 000 personnes en dépendent. La vie sur Terre peut donc évoluer, vous le disiez, vers de nouvelles espèces, en créant bien sûr de nouveaux écosystèmes, mais l'humanité non. Voilà pour le résumé technique, en effet plus alarmant que le précédent rapport qui date de 2014.
Et il faut des objectifs de limitation de la hausse de la température plus stricte qu'aujourd'hui.
Oui, on peut éviter un scénario trop catastrophe, mais pour cela, il faudrait limiter le réchauffement à 1,5 degré et pas à 2 degrés comme prévu dans l'accord de Paris. Ce rapport est peut-être volontairement très dramatique pour alerter les chefs d'État qui se retrouveront à Glasgow en Écosse en novembre. Et il n'y a pas 36 solutions, il faut des mesures drastiques, notamment redéfinir notre mode de vie et de consommation. Et il faut protéger certains écosystèmes précieux pour le climat, en particulier les mangroves ou les forêts sous-marines, très efficace pour stocker le carbone.
Et dans ce qui filtre de ce projet de rapport, il est question de point de bascule aussi, Célia.
Oui, car au-delà de 2 degrés, les conséquences sont encore plus graves. 80 millions de personnes supplémentaires souffriraient de la faim d'ici 2050. Les canicules extrêmes concerneraient 400 millions de personnes de plus. Il pourrait y avoir 3 ou 4 catastrophes météorologiques simultanées dans les zones côtières, canicules, sécheresses, cyclones, incendies. Et ce rapport dit bien que chaque demi-degré compte. Un exemple, l'eau. Avec 1,5 degré de plus, 350 millions de personnes risquent de manquer d'eau. Elle serait 400 millions avec 2 degrés. Or, un point de bascule a peut-être été déjà atteint en Arctique, territoire qui se réchauffe 3 fois plus vite que la moyenne. Nous sommes peut-être la dernière génération à voir de la glace sur la banquise l'été, disent des chercheurs qui reviennent d'une expédition de plusieurs mois. Preuve qu'un point de non-retour a déjà été atteint.
Célia Quiré, spécialiste des questions d'environnement à France Inter. Elle arrive à l'Elysée avec 40 milliards d'euros en poche. Ursula von der Leyen rencontre Emmanuel Macron cet après-midi. La présidente de la Commission européenne est en tournée promo depuis la semaine dernière sur le continent. Promotion du plan de relance adopté par l'Union européenne l'été dernier, 750 milliards d'euros. En France, l'argent européen représente 40% de notre plan de relance, 40 milliards. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
On vous a déjà entendu dans les titres, Angélique. Alors que l'Union européenne a subi pas mal de critiques ces derniers mois, la patronne de Bruxelles veut faire savoir que l'Europe, c'est aussi des sous, beaucoup de sous et du concret.
Oui, elle visite 2 à 3 pays par jour pour délivrer sous les caméras, bien sûr, le feu vert de la Commission au plan de financement soumis par les États. Elle en profite pour montrer aux citoyens à quoi servira ces milliards. On l'a vu, casque jaune sur la tête, visiter une centrale thermique au Danemark, en Lettonie, grimper dans un bus à hydrogène, à Athènes, masque anti-Covid aux couleurs de l'Europe. Elle a échangé avec de jeunes Grecs sur cette bouffée d'argent frais qui va permettre de relancer leur économie à un marathon médiatique pour rappeler à tous, en effet, que les plans de relance se sont largement financés par cet endettement commun, inédit par son ampleur et bouclé, un exploit à l'échelle de l'Union en moins d'un an.
Est-ce que des contreparties sont demandées au pays, à la France en particulier ?
Oui, les critères d'attribution pour tout le monde sont stricts et seront très contrôlés, nous dit-on. Au moins 37% des sommes doivent accompagner la transition verte, 20% la transition numérique. La France, avec par exemple la rénovation thermique promise de 680 établissements scolaires d'ici 2025, ces 450 km de lignes de train dont on nous dit qu'elles seront remises en état d'ici 2023, ou encore la digitalisation de nos cartes d'identité, eh bien la France sera largement dans les clous. Mais les États doivent aussi s'engager à faire des réformes, assurance chômage pour la France. Enfin, la distribution des fonds pourra à terme être remise en cause en cas de non-respect par certains de l'état de droit.
Angélique Bouin en direct de Bruxelles, actualité internationale à l'instant. Cette information de l'agence France Presse, des tirs de semences russes contre un navire britannique en mer Noire. L'agence France Presse cite des agences russes. Et puis la démocratie un peu plus moribonde à Hong Kong. L'un des derniers journaux d'opposition, le Apple Daily, annonce que son tout dernier numéro paraîtra demain. Londres, entre autres, dénonce cette fermeture qualifiée de glaçante. C'est dans une semaine de doute pour le Rassemblement national que Marine Le Pen était ce matin l'invitée de France Inter. Le parti d'extrême droite, le RN, a souffert plus que les autres de la très forte abstention au premier tour des régionales. Plus de 3 millions de voix envolées par rapport à 2015. Ces électeurs reviendront-ils au second tour dimanche prochain et à la présidentielle en 2022? À propos de cette présidentielle, un autre nuage se fait menaçant pour Marine Le Pen, une éventuelle candidature d'Éric Zemmour. C'est une hypothèse à ce stade suffisamment crédible pour que la patronne du RN se montre plus offensive avec l'éditorialiste de CNews, Maxence Lambrec.
Oui, la bataille commence. Pourquoi ? Parce qu'Éric Zemmour a réalisé le 18 juin son premier déplacement de campagne à coup de vidéo sur Twitter.
Bonjour, je suis ici sur la plage splendide de Malo-les-Bains. Dans quelques années, il y aura ici une énorme forêt d'éoliennes.
Reprendre le combat anti-éolien. Après s'être placé comme elle dans les pas de De Gaulle devant sa maison natale à Lille.
Le général De Gaulle est tout sauf un homme politique, est tout sauf un politicien professionnel. Il n'est pas élu, il n'est pas chef de parti. C'est un écrivain, c'est un intellectuel qui connaît l'histoire de France.
Zemmour, le nouveau De Gaulle, ça ne manque pas de piquant. Et dernière provocation à la télé avant-hier, il s'attaque à la banalisation de Marine Le Pen.
En vérité, il n'y a plus de différence aujourd'hui entre son discours et le discours d'Emmanuel Macron ou de Xavier Bertrand.
Trop, c'est trop. La patronne du RN en fait donc maintenant un adversaire ce matin sur Inter.
Je trouve particulièrement désobligeant les commentaires d'Éric Zemmour, ce qui démontre qu'il est devenu un candidat et qu'il n'est plus un éditorialiste.
Le CSA d'ailleurs hésite à le basculer dans la catégorie des personnalités politiques, selon nos confrères de l'Express. Mais cette attaque, Marine Le Pen pourrait la regretter, estime un cadre du RN. Dans un entre-deux-tours compliqué, on ne cogne pas une figure de notre électorat. C'est une marque de fébrilité. Elle espère vite le faire sortir de son ambiguïté pour vite l'affaiblir, car pour elle, la politique, c'est un métier.
Et dans son interview à France Inter, Marine Le Pen s'élève aussi contre une autre hypothèse, celle d'avancer de 15 jours par rapport à 2017, les dates de la présidentielle. Premier tour le 10 avril 2022, second tour le 24 avril, ça n'est pas encore officiel. Ce doit être détaillé la semaine prochaine, mais Simon Le Baron, c'est une hypothèse très sérieuse. Vous êtes en direct de l'Élysée. Si c'est 10 et 24 avril sont bien confirmés, ça soulèvera plusieurs questions, Simon.
Oui, d'abord parce qu'elle tomberait, ces élections, en pleine vacances de printemps. C'est ce que disait Marine Le Pen ce matin sur Inter. Elle y voit une tentative d'Emmanuel Macron de démobiliser l'électorat. La présidente du RN, déjà traumatisée par le premier tour des régionales, qui a montré que l'abstention ne lui était pas du tout favorable. Ensuite, cela poserait une question sur la durée de la campagne. Campagne éclair pour Emmanuel Macron. Ses proches nous le disent d'ailleurs depuis des mois. Il officialisera sa candidature au dernier moment, sachant que ses premières semaines de 2022 seront consacrées à la présidence de l'Union européenne, sa campagne devrait être effectivement disons, compacte. Mais en réalité, la Constitution ne laisse pas beaucoup de choix. Elle stipule que l'élection doit avoir lieu entre 20 et 35 jours avant l'expiration du mandat du président. Il y avait donc deux possibilités, soit les 10 et 24 avril, soit les 17 avril et 1er mai. Or, le 17 avril, c'est le dimanche de Pâques. Le 1er mai, c'est la fête du travail, jour traditionnel de défilés syndicaux. Dans ces conditions, la première option, donc les 10 et 24 avril, ne fait guère de doute. Plusieurs sources proches du gouvernement viennent de nous le confirmer ce midi.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que la possibilité de victoire de l'extrême droite est réelle, dimanche au second tour, une voix qui compte dans la région marseillaise, celle de Bernard Tapie, appelle à tout faire pour éviter cela. Il appelle les électeurs à voter muselier ou s'abstenir. En Bourgogne-Franche-Comté, première région de France pour la part de l'industrie dans l'emploi, une entreprise est au cœur de la campagne, la fonderie automobile MBF Aluminium. Sa liquidation judiciaire a été prononcée hier par le tribunal de commerce de Dijon. Les juges ont estimé que le seul repreneur de cette entreprise très endettée ne présentait pas de garantie suffisante. Elle employait 270 salariés à Saint-Cloud, cette entreprise. Saint-Cloud, sous-préfecture du Jura, qui compte un peu plus de 9000 habitants. Coup de téléphone au maire, Jean-Louis Millet, atterré.
Une telle catastrophe sur une ville comme la nôtre, qui n'a pas besoin de ça, j'estime que la ville est en deuil. De cette fermeture d'entreprise qui est l'entreprise historique de la ville. Hein. C'est l'entreprise historique. Je suis sidéré. Je suis sidéré par cette décision. Maintenant, on dit, il y a 280 personnes au tapis. Avec les familles, ça fait 1000 habitants qui, demain, n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas.
Propos recueillis par Marie-Coralie Fournier de France Bleu Besançon. Et toujours en Bourgogne, autre décision de justice qui constitue une première. Le tribunal administratif de Dijon vient de condamner l'État à verser près de 22 000 euros d'indemnité à un agriculteur bio. Il avait saisi la justice pour les retards de paiement des aides bio qu'ont subi des milliers d'agriculteurs, des retards pouvant aller jusqu'à 5 ans à partir de 2015. Manuel Ruffez.
Cette histoire est derrière lui, mais elle lui a valu de telles complications jusque dans sa vie privée qu'aujourd'hui, il préfère témoigner anonymement. Cet agriculteur de Bourgogne raconte la période fragile de sa conversion en bio et pendant les 3 premières années, des aides qui n'arrivent pas. Et sans les aides, ça ne passe pas, assure-t-il, l'État est fautif.
Quand vous avez un retard de paiement d'impôts, tout de suite, vous allez avoir les huissiers, les lettres recommandées, ainsi de suite. Et ben, quand c'est l'État, ben, open bar, on fait ce qu'on veut. Donc après, il arrive un moment, il faut qu'il y ait justice. Donc la justice est rendue, tant mieux.
Ce jugement est une reconnaissance de notre bonne foi, analyse le président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, Philippe Camburet. L'État, accuse-t-il, a maltraité les agriculteurs bio.
Aucune forme d'autre agriculture n'aurait accepté ce genre de traitement-là. Évidemment que si ça avait concerné la grande masse des agriculteurs conventionnels, jamais les choses ne se seraient passées de cette manière-là, jamais le ministère n'aurait traité ces agriculteurs de cette manière-là.
Mais ces agriculteurs ne crient pas victoire pour autant. D'abord parce qu'il peut y avoir appel de ce jugement, ensuite parce qu'un autre tribunal administratif, celui de Lyon, a débouté l'agriculteur plaignant. Ils attendent donc les jugements des autres tribunaux saisis, Nantes, Besançon, Amiens, Poitiers ou encore Caen.
Même si les mesures de restriction ont en grande partie été levées ces dernières semaines, l'été ne sera pas tout à fait normal après l'épidémie de Covid. Les enfants et adolescents qui partiront en colonie de vacances, par exemple, devront prendre des précautions. Alors elles ne seront pas les mêmes partout. Exemple avec ce que prévoit le centre de loisirs d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Cécilia Arbona, le protocole était présenté hier avant un été qui s'annonce tout de même très chouette pour les adolescents.
Du catamaran en Bretagne, du biathlon dans le Jura, des sports mécaniques dans la Creuse, la commune propose une trentaine de formules en juillet-août. 696 enfants sont inscrits, à un record.
Ce qui est recommandé, en tout cas, c'est de passer un test PCR de moins de 72 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures.
Céline Fallet, responsable des séjours vacances au Clavim.
Parce que maintenant, nous pouvons enlever les masques dans des endroits qui sont ouverts. Dans les dortoirs, ils vont l'enlever. On nous demande d'avoir 2 mètres de séparation entre chaque lit et quand ce n'est pas possible, les enfants dormiront tête bêche.
Quelle que soit la destination, le Covid fait partie des inquiétudes des parents. Claire, maman de Raphaël et d'Arthur.
C'est sûr qu'il est, présent, j'y pense évidemment. Moi, mes enfants, il y en a un qui va dans la Creuse et l'autre il va à l'Île-Dieu. Lui, il passe le brevet là dans quelques jours, il a 14 ans, il était assez partant pour se faire vacciner et le 30, il ira faire sa première injection. réaction, parce que je me méfie un peu. Je pense que les gestes barrières en colonie de vacances, c'est un peu illusoire. Donc ça me rassure un peu, puis lui aussi.
Pandémie ou pas, les jeunes sont préoccupés par un tout autre sujet, majeur celui-là, leur téléphone portable, interdit en colonie, que les ados sont priés de laisser à la maison, avec papa-maman.
Après les orages du début de semaine, toujours aucune nouvelle de l'adolescent de 17 ans porté disparu à Beauvais, dans la ville, la décrue s'amorce. Les recherches continuent évidemment. À la cour d'assises de Nantes, parole à l'accusé ce matin. Interrogatoire de personnalité d'Hubert Caouissin qui a nié hier avoir volontairement tué toute la famille Troadec, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces en février 2017 à Orvault, près de Nantes. Il est accusé de ce quadruple meurtre et de s'être acharné sur les corps ensuite pour maquiller les crimes. L'histoire familiale, c'est celle d'un fantasme. Hubert Caouissin et sa compagne Lydie étaient persuadés que les Troadec avaient volé un trésor de lingots d'or. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Corinne, l'accusé a été très déstabilisé ce matin par les questions de la présidente de la cour.
Oui, très vite, au bout de 10 minutes, Hubert Caouissin s'effondre littéralement dans le box avec un petit cri terrassé par l'émotion. C'est enfoui tout ça, j'en parle jamais, explique-t-il entre deux sanglots. Tout ça, c'est son enfance auprès d'une mère alcoolique et violente et d'un père qui faisait ce qu'il pouvait. Sa mère est là, dans la salle, au premier rang, mais il ne veut pas qu'elle témoigne parce qu'elle déforme les choses, dit-il. La présidente l'interroge sur sa dépression en 2013. J'ai commencé à entendre des bruits, dit-il, la serre du voisin, la ventilation dans les magasins. Il ne peut plus travailler, il ne dort plus, sauf une fois par semaine, chez sa belle-mère. Mais le lit a été saboté, dit-il énigmatique. Par qui ? La réponse fuse. C'est Pascal qui dormait là. Pascal, son beau-frère, le père de la famille décimée à Orvault. Les obsessions d'Hubert Caouissin semblent intactes. Il avait peur que son beau-frère envoie un tueur, parce que notre fils, c'est un ayant droit du magot, dit-il. Vous en parlez au présent, relève la présidente. Je suis toujours ancré dans le passé, reconnaît-il. Interrogé sur son neveu et sa nièce, Sébastien et Charlotte, il s'effondre à nouveau. Vous les aimiez ? Demande Karine Laborde. Hubert Caouissin reste figé, la main sur son visage, grimaçant, avant d'articuler entre deux sanglots. Bien sûr, je les aimais.
Corinne Audouin en direct de la cour d'assises de Nantes avec les moyens techniques de Yves Lehorse pour France Inter. Son plaisir a peut-être été un peu gâché, mais la récompense a la même valeur que les autres années. L'Américain Chris Ware reçoit le prix de la ville d'Angoulême de la bande dessinée. Alors pas de festival cette année, il avait été reporté de janvier à juin à cause de la pandémie, mais même en ce début d'été, le public n'était pas là. C'est chez lui, aux États-Unis, que Chris Ware a pris sa récompense. Jacqueline Petros, avec vous, portrait de ce grand nom Chris Ware du comic strip.
Oui, alors certains auteurs comme Riyad Satouf estiment que Jimmy Corrigan, le premier roman graphique de Chris Ware, est un des livre à lire absolument dans sa vie.
Bon.
Un brin autobiographique, Jimmy Corrigan est né des années universitaires de Ware. Il y raconte l'histoire de deux jeunes garçons durant leurs études dans sa ville natale d'Omaha, au Nebraska. Alors pas de grandes aventures, mais une chronique de la vie dont il publie en 2016 la suite Rusty Brown. Chris Ware, c'est le scénariste, illustrateur, coloriste de tous les défis. Dans les années 2010, paraît une somme incroyable, ça s'appelle Building Stories, un coffret de 14 livres où on suit pendant des années la vie des habitants d'un immeuble. C'est un album qui sera primé 4 fois aux États-Unis et qui restera 25 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times. Building Stories recevra le prix spécial du jury à Angoulême en 2015. Alors, les personnages de Chris Ware, ils sont dessinés un peu comme avec des bâtons et des cercles.
Oui.
Ils sont statiques et pourtant étonnamment expressifs. Des cases entassées dans une page, un personnage ou un paysage au milieu et en fait, une lisibilité délicate et même envoûtante. Le style de Chris Ware est reconnaissable entre tous et son talent de coloriste donne un air un petit peu d'atmosphère proustienne. Mais il ne faut pas s'y fier, il interpelle beaucoup sur la mémoire, la filiation et la société de consommation.
Et le voilà donc Grand Prix de la ville d'Angoulême. Faut-il y voir un effet Thomas Pesquet? La campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne pour la prochaine génération d'astronautes, cette campagne a fait un carton, tout particulièrement en France. Le nombre de candidats a plus que triplé par rapport à 2008, 22 589 très précisément. Les Français sont de loin les plus nombreux. Rappelons que seulement 4 à 6 personnes iront dans l'espace. Et puis il y a plus de femmes qu'il y a 12 ans. Sophie Becherel.
Oui, c'est effectivement, vous l'avez dit, en France que le nombre de candidats est le plus important, plus de 7100, le double de l'Allemagne, plus de candidatures féminines aussi, 24%, comme l'avait souhaité l'Agence spatiale européenne. Un tel engouement réjouit le médecin des astronautes Guillaume Werth.
On a eu une réponse incroyable, c'est 260% de plus qu'en 2008, autant dire une augmentation phénoménale. Pour moi, cela montre que l'espace est vraiment entré dans la culture des Européens. Beaucoup de gens sont intéressés par ce secteur, veulent en faire partie.
Le processus de sélection comporte 6 étapes. Sur les 22 000 dossiers, seuls 1500 devraient passer le premier filtre et être convoqués pour les premiers tests psychologiques. Viendront ensuite les tests d'aptitude physique, les tests médicaux plus poussés et à nouveau des tests psychologiques. Le conseil de Thomas Pesquet, ne pas douter de soi et faire de son mieux.
Moi, je pense que les profils des astronautes, c'est des gens qui sont vraiment excellents dans rien, en fait. Ils sont pas mal dans beaucoup de choses, mais on demande pas des prix Nobel, on demande pas des sportifs de haut niveau, on demande des gens qui peuvent faire du sport et qui sont assez sportifs. On demande des gens qui ont un profil technique, scientifique, qui peuvent comprendre des choses compliquées, mais on demande des gens qui sont des joueurs d'équipe, on demande des gens qui ont pas de trous dans la raquette, en fait.
Fin 2022, lors de l'ultime étape de sélection, il ne devrait rester qu'une quarantaine de candidats pour, vous l'avez dit, 4 à 6 places.
4 à 6 places, merci Sophie Becherel. Il nous reste à voir le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
À nouveau des averses et des orages cet après-midi.
Oui, pour l'instant, les averses touchent surtout le sud de la Garonne, mais les premiers orages commencent à éclater vers les Cévennes et la Bourgogne. Au fil des heures, l'instabilité va s'accentuer et les averses vont bourgeonner entre le sud-ouest, la Champagne, l'Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes. Les orages pourront être forts et peu mobiles, ce qui apportera beaucoup d'eau par endroit. Prudence notamment entre le Limousin et les Cévennes, ainsi que sur la Franche-Comté et les Alpes du Nord. Le temps sera plus sec autour de la Méditerranée et sur le quart nord-ouest. Les éclaircies seront plus belles près des plages de la Manche et de la Corse, ainsi que sur la Provence, alors que la couche nuageuse restera bien étendue entre le golfe du Morbihan, la Vendée, l'intérieur de la Normandie, le bassin parisien et les frontières de la Belgique. Les températures sont plutôt contrastées puisqu'on a beaucoup d'air chaud sur la façade est alors que de l'air frais envahit les régions de l'ouest. Pour preuve, 26 degrés à Grenoble et Perpignan, 29 degrés à Bastia et 31 degrés à Saint-Tropez, alors qu'on attend 16 degrés à Caen, 17 degrés à Abbeville et à Tarbes et 19 degrés à Paris.
Ah oui, gros écart. Merci Sébastien Léas. Météo France, cette dernière minute. La liste rouge des voyageurs contre le Covid. La France ajoute à cette liste la Namibie, les Seychelles et la Russie. Nous parlons cinéma.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duc.
Le rendez-vous cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Vos choix cette semaine, d'abord, le nouveau Cruella des studios Disney avec Emma Stone dans le rôle titre.
Ce serait une erreur de se préoccuper des autres. Vous avez le talent. Mais avez-vous l'instinct tueuse ? C'est une question primordiale.
Alors on attendait de la noirceur, on attendait de la castagne. De ce point de vue-là, c'est réussi, mais vous restez un peu sur votre faim.
Mais oui, parce que c'est pas toujours une bonne idée de vouloir à tout prix nous expliquer pourquoi le méchant est devenu méchant quand on le fait en copiant sur tout ce qui a déjà fonctionné ailleurs. Il y a plein de bonnes idées dans le film, mais on pense beaucoup trop au Joker de Todd Phillips, au personnage d'Harley Quinn dans les DC Comics, trop de Gotham, trop de bastons en mini-jupe et même trop de musique. C'était malin de verser dans le punk, mais là c'est presque une caricature. On a du mal à ressentir de l'empathie pour le personnage, genre c'est ce qu'on attend de nous.
Oui.
Et puis surtout, ça manque de chiens. Entre 3 et 101 dalmatiens, ça fait quand même une grosse différence. Plein de petites choses agaçantes. C'est dommage parce qu'Emma Thompson et Emma Stone étaient plutôt bien dans le rôle.
Voilà pour Cruella. Autre incontournable de ce mercredi, Ibrahim, premier film du comédien Samir Ghesmi.
Et c'est un film dans lequel on dit peu de choses, mais qui montre beaucoup. Une histoire toute simple qui a remporté au Festival du film d'Angoulême quasiment toutes les récompenses l'année dernière, grâce aux comédiens qui sont super, notamment Abdel Bendaer, dont c'est le premier rôle. Il a été casté à la sortie d'un terrain de foot. Il joue dans le film le personnage d'Ibrahim, un lycéen qui a fait des bêtises sous l'influence d'un de ses copains et à cause de ça son père va être en difficulté, ça va le priver du dentier qu'il espérait s'offrir pour quitter son poste d'écaillé, devenir serveur dans une grande brasserie. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que là où beaucoup nous raconteraient la chute d'un ado, eh bien Samir Ghesmi nous propose plutôt une histoire de rédemption, sans clichés, sans pathos, tout en finesse. C'est un film très doux, très réussi.
On oublie la douceur dans votre prochain choix, ça secoue.
Vous vouliez me voir ?
J'ai eu Paris, il va falloir encore nous alléger.
Vous ne m'avez pas embauché pour licencier, j'ai l'impression que je fais que ça. Qu'est-ce qui se passe ?
Une alerte tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres.
tsunami, tremblement de terre en perspective avec Karine Viard, en expatrié au Japon. Le film s'appelle Tokyo Shaking.
Voilà, depuis 15 ans, sa famille vit au gré de ses déplacements professionnels, Orléans, Londres, Hong Kong et à présent Tokyo. Karine Viard, dans le rôle d'Alexandra, est une femme brillante qui a tout réussi, mais ça ne va pas durer car elle est une femme et qu'elle va devoir en faire des tonnes pour prouver dans le film qu'elle a mérité sa place. Sujet très actuel pour aborder de manière originale tout autre chose, la catastrophe de Fukushima que l'on découvre à hauteur des Français qui ont vécu l'accident. On s'attendait à un film qui traite de la situation des femmes, du plafond de verre dans les grandes entreprises. Et bien, c'est également une grande histoire de solidarité, l'histoire d'un pays avec plein de situations cocasses et beaucoup d'humour noir.
Cela s'appelle donc Tokyo Shaking. Le réalisateur, c'est Olivier Payon. Les deux autres choix de la semaine, Cruella avec quelques réserves et Ibrahim sans aucune réserve. Merci Corinne Pellissier.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Enrique Barzilay, à Paris 20e, nous dit pourquoi.
J'ai pris un rendez-vous sur Internet avec mon opticienne et ça s'est très très bien passé parce qu'il n'y avait que moi dans la boutique. Mon opticienne avait une visière en plexi. Moi, j'avais mon masque chirurgical, mais j'ai essayé une ou deux montures et elle m'a dit qu'elles étaient désinfectées une par une.
Hélène Fayol, l'opticienne Optique 2000 de Monsieur Barzilay à Paris, métro Maraîcher.
La santé des clients passe avant le reste. Le conseil, c'est important, mais le respect des gestes barrières nous paraît évident, nous, en tant que professionnels de santé. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous traitons tous les papiers.
Alors, Monsieur Barzilay, content d'Optique 2000?
Ah oui, tout était fait dans le respect des consignes. Et en plus, ils ont très bien géré tout mon dossier.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
Frais bancaires cachés. Corvée des notes de frais, conseiller injoignable. Pour faire face à tout ce stress, il y a plus efficace que ce gentil petit air de flûte. Il y a Conto, le compte qui change la vie des pros. Plus qu'un compte professionnel en ligne, Conto, c'est une gestion des notes de frais en temps réel, des tarifs 100% transparents à partir de 9 euros par mois et un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Forcément, vous allez être détendu. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Il est 13h31.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Vous l'avez sans doute remarqué, au marché ou au supermarché, le prix des fruits est très élevé en ce début d'été. Les abricots à 5 euros le kilo, la fraise et la cerise autour ou au-delà des 10. Comment expliquer cela? Il faut se souvenir de l'épisode de gel de début avril. Certains arboriculteurs avaient perdu 30-50% de leur récolte, voire davantage. Et puis il y a eu les orages de ce début de semaine. Auront-ils eux aussi un impact? Tout cela pour des professionnels qui ont enduré un an et demi de pandémie. La fermeture des restaurants, le manque de main-d'œuvre notamment. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir, pour vos questions sur la fraise, la tomate et la prune. Pour dialoguer avec vous jusqu'à 13h45, la présidente de la Fédération Nationale des Producteurs de Fruits, elle-même arboricultrice à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Françoise Roch.
Oui, bonjour Monsieur Duvic.
Commençons par les orages de ce début de semaine. Y a-t-il eu, à votre connaissance, est-ce que vous avez eu des remontées de cultures touchées, d'arboriculteurs touchés?
Non, grave, on n'a pas eu. Il faut savoir que, notamment la grêle, c'est aujourd'hui quelque chose que l'on arrive à plutôt bien protéger sur les vergers. Nous avons des filets paragrêles qui nous protègent. Autant le gel, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. La grêle, ça fait quelques années, une vingtaine d'années qu'on met du filet sur nos parcelles. Ouais. La pluie aura pu abîmer de la cerise. C'est le fruit le plus fragile sur la pluie. Et un peu l'abricot, si vraiment il y a eu des trombes d'eau. On n'a pas eu de remontée gravissime dans les vergers à ce jour.
Bon, rien à voir avec le gel d'il y a deux mois. Vous avez perdu quelle part de votre récolte début avril, Madame Roch?
30%.
C'était la moyenne à peu près des arboriculteurs que vous représentez. 30%, il y a eu des pertes plus lourdes encore?
Il y a eu beaucoup plus lourd parce que l'espèce la moins touchée, c'est la pomme, oui. Où on parle de 20-30% de dégâts. C'est vraiment une espèce qui est très résiliente au niveau du gel. Donc il a fallu qu'on aille sur du, je pense, aux Hautes-Alpes qui ont eu jusqu'à moins 10, où là vraiment les dégâts ont été importants. Mais globalement en France, la pomme est moins touchée. Les fruits les plus touchés, ça a été la cerise, l'abricot, et à 70-80%, et dans une moindre mesure, la pêche à touchait à 50-60%. Et la prune aussi touchait à 50-60%.
Vous vous faites
beaucoup plus les fruits d'été.
Ouais, vous vous faites pommes, prunes et raisins, me semble-t-il. C'est bien cela?
Oui, raisins de table. Je suis dans l'aire d'appellation du Chassagne-Moissac.
C'était il y a 2 mois. Est-ce que les arboriculteurs touchés ont reçu des aides? Comment ça s'est passé de ce point de vue-là?
Alors, ça fait des années au niveau syndical que l'on demande une assurance digne de ce nom pour les coups durs. Ça n'existe pas aujourd'hui, donc on est passé sur des caisses de calamité. Et c'est oui, bien sûr, il y a des aides. Le gouvernement a vraiment joué au maximum le jeu. Mais ce sont des aides qui sont plutôt restreintes par rapport à des normes européennes, à des forfaits. C'est compliqué. Donc, le maximum qui peut être donné à un producteur à travers les calamités agricoles, c'est 40% de ses pertes sur des bases de forfaits. Donc, on pense que ça va être quand même très compliqué de se remettre de ça. Donc, on travaille avec le gouvernement qui, je le précise, est vraiment proche de nous dans ces moments compliqués pour essayer de perdre le moins possible de producteurs. Mais c'est vraiment dur.
Et ces 40%, quand ils arrivent au bout de combien de temps?
Alors là, exceptionnellement, nous avons demandé au gouvernement de faire une avance parce qu'une année blanche chez certains producteurs, ça va être compliqué.
Oui.
D'attendre autant. Les calamités, c'est 1 an avant de toucher le premier sou. Donc, on a réussi à rentrer dans le PGE, vous savez, les prêts garantis par l'État.
Oui.
Donc, pour donner un petit peu de trésorerie en attendant, les gens les plus touchés peuvent avoir une avance sur les calamités. C'est en train de se faire au niveau notamment des frais à noyaux, abricots, prunes et pêches.
Vous disiez tout à l'heure, on discute pour un système d'assurance en cas de coup dur. J'imagine que les coups durs, avec le changement climatique, il y en a de plus en plus. Il y a voilà une discussion très sérieuse dans votre métier pour changer le système d'assurance pour affronter ces aléas climatiques de plus en plus nombreux.
Enfin, je dirais, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on alerte là-dessus. Et enfin, suite au gel, ça a précipité un petit peu les décisions, notamment de Julienne de Normandie.
Oui, ministre de l'Agriculture.
Voilà, qui est en train de travailler sur un petit peu... Il y a l'Espagne qui fait ça depuis des années. L'Espagne est un très, très gros producteur de fruits et légumes.
Oui.
Et ça fait des années qu'ils ont un système assurantiel qui aide beaucoup les producteurs. Et enfin, on se met à travailler et ils pensent pouvoir proposer quelque chose fin 2022.
À la fin de l'année prochaine. Alors venons-en au prix, Madame Rock. J'ai le message de Marge là sur l'appli France Inter. Ce matin, marché des producteurs du Cours Julien à Marseille, 8 euros le kilo d'abricots. Et Marge précise, c'était pas du bio, hein, 8 euros le kilo d'abricots. Que se passe-t-il?
Mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est toujours pareil. Le fruit, c'est un produit qui se conserve peu, donc il faut absolument qu'on aille rapidement vendre les fruits. Et donc, c'est le marché de l'offre et de la demande qui fait le prix en fruits. Ça a toujours été. Et donc, quand on est dans une année de très forte récolte, les prix sont extrêmement bas aux producteurs. Et quand vous avez des gros manques, les fruits augmentent. Ça a toujours été comme ça et effectivement, là, on se retrouve avec des fruits français qui sont plutôt chers. Nous, ce qu'on demande, on travaille avec l'interprofession des fruits et légumes où on peut discuter avec les centrales d'achat, puisque ce sont eux qui commercialisent plus de 70% des volumes de fruits en France. Donc, en leur disant, faites vraiment très attention quand vous sentez que la production augmente. Parce que si vous voulez, quand on gèle, on peut geler un abricot précoce, mais pas un tardif. Donc, quand vous allez sentir qu'il y a du volume un petit peu plus, faites vite baisser les prix aux ardoises. Parce que si vous attendez X jours, alors que vous avez payé le fruit moins cher, c'est le consommateur qui ne s'y retrouve pas et le fruit qui s'écoule moins bien. Donc, on essaye de mettre de la fluidité là-dedans et c'est vrai que les centrales ont un grand, grand rôle à jouer. Pour que vraiment, quand le fruit baisse à la production, les consommateurs puissent en profiter.
Et là, ça veut dire ça veut dire qu'au fil des jours, la production va être plus importante maintenant que la période de gel est passée et que les prix vont baisser dans les semaines à venir?
Ça va dépendre des périodes. La pêche et l'abricot, ils nous ont dit qu'en juillet, normalement, ils en avaient un petit peu plus. Donc on risque de voir un petit peu baisser les prix, mais c'est vrai que ça va être une année plutôt compliquée avec des prix assez forts. Ce qu'il faut être sûr, enfin nous on essaye d'être très vigilants là-dessus pour que le prix au producteur soit relativement élevé, parce que c'est quand même les producteurs qui ont des surcoûts importants, parce que quand vous avez des pertes de récolte, eh bien, les frais que vous ramassez automatiquement beaucoup plus cher parce que vous en avez moins sur les arbres. Et donc tout ça, il faut que vraiment le prix soit répercuté aux producteurs. Et c'est pour ça que je demande aux auditeurs beaucoup de bienveillance, parce que déjà l'arboriculture est très touchée. On a perdu beaucoup de producteurs ces 20 dernières années. Les prix sont toujours limites pour de rentabilité. Et c'est vrai que du coup, les quelques producteurs qui ont un petit peu de production cette année, effectivement, eh bien, ils vont avoir un prix un petit peu plus haut qui va leur permettre de passer l'année.
Question pour vous au standard. Question de Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo.
Oui, bonjour à vous.
Nous vous écoutons.
Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Une fois que le fruit est récolté, vous avez dit justement qu'il faut aussi qu'il soit bien protégé pour que le consommateur soit satisfait sans que le prix soit trop élevé. Je constate quelquefois c'est que le fruit arrive dans de mauvaises conditions et en fait on doit enlever une grande partie, et je pense que la protection de certains fruits, des fruits à jus, peut-être moins les vôtres, mais par exemple les fraises dans les barquettes, oui, qui sont bien enveloppées. Il y a de l'humidité qui se dégage dans la barquette, et aussi avec les différences de température qu'on a subies. Et donc, cette humidité ne peut pas être absorbée. Et donc, du coup, le fruit se dégrade très rapidement au fil des heures.
Est-ce qu'il y a, Françoise Roch, un sujet fruit abîmé particulièrement cette année? J'avoue qu'à titre personnel, j'ai eu pas mal de déconvenues. Est-ce que c'est un vrai souci cette année?
C'est clair que quand vous avez une région de production, je pense à la fraise, à l'abricot, où il y a énormément de pluie, etc., ce sont des fruits qui, malgré nos protections, sont beaucoup plus fragiles. Un fruit gorgé d'eau va être plus fragile qu'un fruit qui a vu beaucoup de soleil, etc. Et c'est sûr qu'il vaut mieux acheter petit à petit, un peu moins, mais plus régulièrement, à un primeur qui s'en occupe bien. On se bat beaucoup là-dessus, parce que si vous voulez, nous, une fois qu'il part de la maison, automatiquement, il ne nous appartient plus, il nous est acheté. Et si après, dans la chaîne, jusqu'au consommateur, c'est ou mal mené, ou mal regardé, ou mal trié, c'est le consommateur qui après est déçu. Oui. Ça fait partie des choses qui sont complexes dans notre métier, surtout avec des produits extrêmement fragiles.
Alors
voilà, c'est sûr que il vaut mieux en acheter, surtout des produits très fragiles, la cerise, la fraise, l'abricot.
En acheter moins et plus régulièrement.
Ouais. Exactement.
Et on a entendu votre appel à bienveillance des consommateurs. Il y a toujours des témoignages. Agnès, Carnac au supermarché, 14 euros le kilo de cerise. Enfin voilà, ce sujet des prix concerne beaucoup de monde. Autre sujet, Madame Roch, les conséquences de l'année et demie de pandémie. D'abord pour vous, dans votre exploitation à Moissac, qu'est-ce que vous avez subi et est-ce que vous en remettez?
Alors, nous, en fruits, on en fait partie des secteurs un petit peu plus protégés parce que les consommateurs ont continué à acheter. On a bien protégé au niveau de... Alors, dans les vergers, ça a été plus simple puisqu'on est à l'extérieur, donc on faisait très attention aux salariés au moment du travail. Mais en station, ils ont été en station fruitière. Quand on emballe, ils ont été très protégés. Donc, ça s'est plutôt bien passé. La seule chose, ça a été des problématiques de main-d'œuvre où on a fait vraiment un appel national pour essayer d'avoir de la main d'œuvre, parce que les fermetures de frontières, etc., ouais, a été très compliqué à gérer.
Et ça, c'est rentré donc dans l'ordre? Vous avez retrouvé de la main d'œuvre?
Oui, maintenant, ça c'est rentré dans l'ordre. Mais l'année dernière, c'était plus compliqué parce qu'on avait affaire à de la main d'œuvre qui n'avait jamais travaillé dans les champs.
Ouais.
Donc, on a eu un turnover très important parce que les gens s'apercevaient au bout d'une journée que c'était extrêmement dur, qu'il faisait extrêmement chaud. Et tout ça, voilà, des gens qui avaient un petit peu envie de retrouver la campagne et qui s'est aperçu que c'était vraiment un métier délicat, très technique et plutôt pénible. Et donc, voilà, ça a été une saison un petit peu compliqué au niveau de la main d'œuvre.
Et on a beaucoup
au niveau des écoulements, très bien.
On a beaucoup parlé des changements de comportement des consommateurs l'année dernière, plus d'achats de produits frais, les circuits courts, le bio, etc. Est-ce que vous avez noté un changement de comportement durable des consommateurs?
Alors, le changement est lié, si vous voulez. Hein. On voit bien des gens un petit peu plus sur le marché, les AMAP, etc. Mais les pourcentages augmentent très très peu.
Oui.
C'est-à-dire que on est encore à 70, voire plus suivant les produits, pourcent des gens qui achètent en centrale d'achat. Et donc les augmentations, on les ressent, mais ça ne se ressent pas ni sur la rémunération au producteur, enfin le revenu du producteur, ni sur nos circuits de distribution. On est toujours encore sur de la grande distribution de façon extrêmement importante.
Merci beaucoup Françoise Rock, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits, d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Nos rites républicains malmenés?
Oui, l'abstention, c'est peut-être de la déritualisation.
Nous verrons cela avec vous dans 10 minutes. Avant cela, troisième épisode du feuilleton avec les assistantes sociales de la ville de Trappes. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le comédien Charles Berling est à votre micro aujourd'hui. Il joue et met en scène la pièce de Bernard-Marie Coltès dans La solitude des champs de coton au Théâtre 14 à Paris.
Pièce pour deux personnages, c'est jusqu'à samedi sur scène. C'est la comédienne Mata Gabin qui lui donne la réplique, même si Coltès procède souvent par monologue. Et j'ai tout d'abord demandé à Charles Berling quel rapport il entretenait avec la chanson. Lui-même a sorti un album en 2012. Celui-ci s'appelait Jeune chanteur.
J'aime beaucoup les chansons. Il y a des périodes où j'en écoute pas du tout, mais d'autres, beaucoup.
En ce moment, vous écoutez beaucoup de chansons?
Non, en ce moment, j'écoute pas beaucoup de chansons. La dernière fois, j'écoutais tout le temps la même chanson, Dès que le vent soufflera de Renaud, parce que je devais la chanter en public. Donc là, j'écoute en boucle la même chanson. Ce qui me rappelle d'ailleurs Jean Eustache, il écoutait en boucle L'oiseau des vacances de Charles Trenet.
Un film qui s'appelle L'oiseau des vacances pourrait être un film d'effet.
Sur une branche de bois mort, le dernier oiseau de l'été se balance. Dernier dimanche, on se décore, où meurt le sourire enchanté des vacances.
Il me rappelle plus les paroles, mais c'est très très joli cette chanson. C'est très 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 joli.
Vous chantez beaucoup?
Oui, je chante, je chantonne.
Il y a un disque?
Oui, j'ai fait un disque, mais surtout beaucoup de concerts. C'est ça qui m'a foutu un trac épouvantable, parce qu'il faut à la fois être juste dans les temps, il faut être juste au niveau de la voix. Enfin, je veux dire, il faut pas faire de fausses notes. En même temps, c'était mes propres textes que je chantais. Donc, j'ai toujours le trac, ça me fout la trouille de jouer, mais de chanter, ça me foutait encore plus la trouille. C'était le sommet du trac.
La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver. À nouveau deux, c'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse.
Et ce n'est pas un titre de Charles Trenet, mais de Daniel Guichard, que Charles Berling a choisi de nous faire écouter, Frédéric.
La tendresse, chanson du début des années 70, premier disque que Charles Berling a acheté. Il connaît encore les paroles de cette chanson par cœur. C'est la seule chanson de Daniel Guichard qui l'a marqué à ce point. La seule chanson dont il connaît les paroles. Ce chanteur, d'ailleurs, dans sa famille, personne ne l'écoutait.
On écoutait beaucoup Brassens, Ferret, Brel, Maxime Le Forestier, Graham Allwright, Bob Dylan, bon... On avait un répertoire qui n'était pas du tout le répertoire de Guichard. Et cependant, quand j'avais 13 ans, la voix de Daniel Guichard, le propos, la tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. Cette voix grave comme ça, j'avais 13 ans, et c'est le premier disque que j'ai acheté. Elle m'a toujours ému, la chanson. Et la voix de Daniel Guichard m'a toujours ému.
À cet âge-là, vous pensiez à qui quand vous entendiez cette chanson?
J'en sais rien. Pourquoi j'étais bouleversé à cet âge-là, je ne sais pas. C'est la magie des chansons, c'est qu'on est emporté par elles et on ne sait même pas pourquoi.
La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire.
La tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire.
La tendresse, la tendresse.
C'est peut-être que j'étais en pleine séparation.
On peut, 13 ans.
Pas 13 ans, bien sûr.
Et aujourd'hui, elle prend quel sens, cette chanson? Avec les personnes avec qui vous avez vécu, est-ce que vous avez réussi à garder la tendresse après?
Bien oui, je crois, oui. Il y a quelque chose qui ne me séparera jamais de ces femmes. Jamais. Donc je pense que c'est ça, la tendresse, oui, ça correspond à ce qu'il dit. À 13 ans, peut-être que j'avais compris, que j'étais ému par quelque chose qui allait advenir. Allez, viens.
La tendresse de Daniel Guichard, c'était donc le choix du comédien Charles Berling, Frédéric.
Que l'on retrouve dans la pièce, dans la solitude des champs de coton, jusqu'à samedi au Théâtre 14 à Paris.
À demain.
À demain.
Une semaine dans la vie des assistantes sociales de Trappes dans les Yvelines. Troisième épisode de notre feuilleton au micro de Mathilde Dehimy. Feuilleton qui raconte le travail des assistantes sociales et l'impact des mois de confinement dans une ville comme Trappes. Aujourd'hui, la chef de service, Sonia Barthégui, reçoit une dame qui peine à trouver un logement et souhaite changer d'assistante sociale.
Allez, on va se mettre en bureau. Le premier. Allez-y, on va se mettre. En tout cas, elle est sage, hein, votre petite dernière, elle est toute sage là. Là, ce que vous expliquiez, c'est que le travailleur social, il n'était pas d'une grande aide pour vous.
Oui, c'est ça. Parce que tous les dimanches, je le fais toute seule.
Okay. Et donc, ça fait 3 ans que vous êtes venue. Et là, aujourd'hui, vous avez la sensation qu'on ne répond pas, ou en tout cas, elle n'est pas assez disponible pour vous, c'est ça?
Et maintenant, seulement les logements.
Et vous êtes hébergée dans quelles conditions?
C'est de la famille, oui.
D'accord. Et c'est difficile, c'est adapté?
C'est difficile. On a un appartement étroit et nous sommes maintenant 10 personnes.
10 personnes?
10 personnes maintenant.
Vous dormez sur le sol directement?
Oui.
Ok. Et ça fait 3 ans que ça dure?
3 ans. Et mais le fil au dossier, il y a accepté. Et maintenant, on m'a fait une proposition.
D'accord.
Oui.
C'est une bonne nouvelle, ça?
Oui, c'est ça.
C'est bien.
C'est le mois de novembre.
Oui.
Et jusqu'à maintenant, j'ai...
Et là, vous n'avez plus de nouvelles?
Non.
Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de ne pas changer de travailleur social pour le moment. Mm-hmm. Par contre, on va faire un point avec madame dès demain, mm-hmm, pour qu'elle puisse vous reproposer un rendez-vous en collaboration avec le bailleur social, mm-hmm, pour que vous puissiez avancer et savoir si vous pouvez y entrer dans le logement.
Oui,
ça vous va?
Oui.
Bon, bah, on fait
c'est
ça.
Dur pour nous, oui, c'est ouais, dur. Et pour la Covid et tout ça, le confinement total et tout ça, c'est dur.
On va espérer que ça avance bien. On a fini?
D'accord. Merci beaucoup.
Allez-y.
Merci.
Bon, je vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir, mademoiselle. Là, moi, mon rôle, il est vraiment de réexpliquer la mission du travailleur social et puis surtout d'écouter, en fait. Parce que pour le coup, pour cette dame, tout a été fait et que maintenant, c'est une question de patience pour elle.
Ça veut dire aussi que vous êtes un peu les vigies de ce qui se passe dans la ville, puisque les gens s'ouvrent à vous. Comment va Trappes aujourd'hui?
C'est difficile. Non, effectivement, la population, elle est fatiguée. Et l'émotion, maintenant, prend le dessus. Que ce soit dans la colère, que ce soit dans le désespoir, ça, c'est vrai que c'est important. Lors des rendez-vous, le confinement revient toujours.
Et est-ce que vous avez, du coup, eu plus de travail? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux profils?
Oui, on a eu une augmentation assez exponentielle du nombre de personnes qu'on accompagne. De nouveaux profils également, qui existaient déjà, mais qui sont plus nombreux aujourd'hui. Les jeunes majeurs ou les travailleurs précaires, qui, à l'époque, se débrouillaient, avaient des revenus dans le cadre de l'intérim, par exemple. Ils viennent vers nous parce que c'est des entrées vers du RSA. De tomber de 1200 un petit chômage à 500 euros de RSA, c'est pas la même vie, quoi. Et l'augmentation du nombre de personnes qu'on accompagne est nette.
C'est de l'ordre de combien?
Donc en moyenne, on a un nombre de familles accompagnées par un travailleur social qui tournait autour de 170 familles en même temps. Là, on tombe plutôt entre du 200 et du 250 familles à accompagner. Donc on sent qu'il y a une marge supplémentaire et que les problématiques ne sont pas les mêmes.
Et avec des dossiers qui mettent aussi un petit peu plus de temps à se régler, parce que les administrations étaient fermées ?
Oui. Ça, c'est une réalité et on a hâte que ça change. C'est-à-dire que les administrations ont dû s'organiser, ont dû fermer, ont dû passer tout au numérique en urgence aussi avec le confinement. L'attente du retour de l'institution peut prendre 3 à 6 mois, alors qu'avant, elle prenait 1 à 2 mois. Et ça, il faut l'accompagner auprès de l'usager. C'est difficile aussi.
Une semaine dans la vie des assistantes sociales de Trappe, feuilleton de Mathilde Dehimi, 4e épisode, demain.
France Inter, le 13-14.
Il y a quelques minutes, le porte-parole du gouvernement appelait à un sursaut démocratique. Il appelait les jeunes à s'investir dans l'arène politique. Cela après l'abstention massive dimanche dernier aux régionales et départementales. Jean Lebrun, dans ce vif de l'histoire, aujourd'hui, vous tentez une analyse anthropologique. Peut-être vivons-nous un moment de bascule dans l'histoire de nos rite.
Parce que l'élection, c'était un rite. On s'y préparait bien avant la première fois, avec un P majuscule. Par exemple, je suis sûr, Frédéric Bruno, que vous êtes présenté à l'élection du délégué de classe.
Oui, absolument.
Oui. Ah, oui. Et comme vous êtes en veine de confidence aujourd'hui,
élu.
Et que vous nous disiez à l'antenne que vous avez eu des déconvenues avec les melons, eh bien, je peux révéler que les dimanches soirs d'élection, alors que votre premier devoir vous fixe devant votre poste, eh ben vous regrettez de ne pas pouvoir emmener vos enfants assister aux opérations de dépouillement.
C'est exact.
D'ailleurs, cette année, ils ne vous ont pas demandé de les y accompagner. C'est peut-être un signe des temps. Alors, vous m'avez fait me souvenir de mes dimanches d'élection. J'habitais un bâtiment municipal où travaillaient mes parents et qui servait de bureau de vote. Et le matin, en ouvrant les volets, je voyais le défilé des citoyens devant l'entrée où se tenait mon père, qui distribuait les 10 bulletins. Et le soir, j'assistais au dépouillement, passant de table en table parmi les scrutateurs. Mes parents me recommandaient de bien surveiller si les scrutateurs ne mettaient pas des bulletins sous la table collés avec du chewing-gum. Eh ben, les rites sont commémoratifs et quand je vais voter, je pense à mon père, qui entre le Front Populaire de 36 et la Constituante de 45 n'a pu élire de député, et à ma mère qui a été tenue en lisière si longtemps alors qu'elle brûlait de faire de la politique. Les rites sont commémoratifs et cumulatifs. Qui n'a pas vu ses parents voter a moins de chances de vouloir voter.
Alors, vous parlez du vote en termes de rite, vous mettez du sacré dans la République ?
Ben oui, Durkheim, n'y voyez pas de difficulté. Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française, grand républicain devant l'éternel, et j'emploie à dessein ces mots, car il y a eu une religion républicaine. L'homme, disait Durkheim, se croit libre. En même temps, il ne peut tout maîtriser parce que quelque chose d'autre existe au-dessus de lui qui va se manifester pendant le scrutin. La cérémonie du vote fait entrer dans notre vie quotidienne un sacré, la force sociale, qui se manifeste symboliquement en corps électoral.
Alors après Durkheim, vous allez citer Marcel Mauss, le père fondateur de l'ethnographie française.
Et le neveu du précédent.
Absolument.
Alors, on le connaît d'abord par son essai sur le don. L'homo economicus n'est pas le tout de l'homme. Pourquoi donnons-nous si souvent ? Que mettons-nous de nous-mêmes dans notre suffrage ? Qu'attendons-nous en retour ? Mauss s'intéressait beaucoup à la Nouvelle-Calédonie. Pensons à la coutume qu'on échange avec ses hôtes là-bas quand on rend visite à une tribu. Soit dit en passant, le référendum sur le statut de la Nouvelle-Calédonie a provoqué une abstention déjà abyssale. 63% d'abstention un dimanche de novembre 88. Les Kanaks ont pourtant beaucoup à nous apprendre en matière de rites. Mauss ajoutait, il y a des rites positifs et des rites négatifs. Eh bien, depuis 2002, chacune de nos présidentielles est-elle autre chose qu'un rite négatif ? Nous avons tour à tour, enfin vous, je ne sais pas moi, je ne vais pas le dire, voté contre Sarkozy, contre Le Pen père, et partager leur reste, et puis aussi contre Le Pen fille, enfin... Du moins jusqu'ici, elle n'est pas ressuscitée.
C'était un vous pour l'électorat. Et maintenant, nous serions parvenus à la négation des rites, Jean ?
Durkheim, Mauss, Bergson, si vous le voulez
bien. Allez-y.
L'intelligence qui dissout, dit-il, fait naître, puis répand le doute. L'intelligence suggère d'abord que l'élection ne sert pas à grand-chose. Et après avoir parlé de l'inutilité du vote, elle veut persuader dorénavant de son inanité. Mais, prévient Bergson, l'intelligence qui dissout le corps social peut ne laisser derrière elle que l'égoïsme et le simple calcul. Et puis c'est pas l'élection le seul rite menacé d'être mis en faillite. Tous les rites, toutes les rites de passage le sont. Van Gennep, 1909. Les rites de passage. La corporation militaire n'a plus cours. L'enterrement est remplacé par l'incinération. Vous me direz que c'est un ultime succès pour les urnes. Et le baccalauréat est en train de disparaître sous nos yeux. Pour que votre note de philo soit prise en compte, il fallait obtenir la semaine passée un résultat supérieur à celui obtenu au long du contrôle continu. Et on a donc vu nombre de candidats superbement indifférents à ce trompe-l'œil sortir de la salle d'examen au bout d'un quart d'heure. Le sourire aux lèvres, les mêmes qui auraient pu être primo-votants ne se sont pas rendus au bureau de vote le dimanche qui a suivi. Sur abstention et sous bac, il faudrait peut-être faire le rapprochement.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire sur ces rites qui sont en train de disparaître. Un rite de début d'après-midi sur France Inter, la Terre au carré, et Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Bonjour Mathieu.
On va s'intéresser à un écosystème méconnu finalement, la plage.
La plage, ça alors, à tout de suite.